Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur les ondes du podcast de MedPro, un podcast qui plonge au cœur des cabinets médicaux. La personne avec laquelle je vais m'entretenir a souhaité rester anonyme. Vous ne connaîtrez donc d'elle que son prénom, Noémie. Assistante médicale, elle est l'auteur ou l'autrice d'une lettre ouverte dans laquelle elle exprime son insatisfaction face au manque de considération accordée à sa profession. Lettre qu'elle nous a envoyée et suite à laquelle nous l'avons invitée à participer à ce podcast. Bonjour Noémie.
Bonjour Céline.
Voici ma lettre ouverte d'une assistante médicale révoltée que je souhaite essayer de partager un maximum. Ces mots, ce sont les mots que vous avez écrits dans l'email que vous nous avez envoyé il y a quelques semaines. Dans cette lettre, vous exprimez votre colère et votre ras-le-bol par rapport à l'évolution de votre profession. Nous allons bien sûr y revenir, ça va être le sujet principal de cet entretien. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander de vous présenter brièvement.
Volontiers. Du coup, comme vous l'avez dit, je m'appelle Noémie, j'ai presque 40 ans. J'habite à la campagne avec ma famille. C'est très important pour nous de vivre dans la nature, pour notre équilibre familial, pour ma santé mentale, avoir le temps de respirer, de déconnecter. Et puis, je suis assistante médicale diplômée depuis plus de 15 ans et l'autrice d'une lettre ouverte qui parle de mon ras-le-bol des conditions des assistantes médicales dans notre monde actuel.
Parfait, merci beaucoup. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ce qui vous a poussé au début plutôt, à choisir le métier d'assistante médicale. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier?
Alors, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours dit que je voulais travailler dans le monde médical. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, d'être au contact des gens, de pouvoir les aider, les soigner. Et puis, en étant jeune, je n'avais pas les ressources financières pour faire des études supérieures comme sage-femme ou infirmière. Donc, j'ai assez rapidement cherché un apprentissage pendant 2 ans, pendant mes 15 et mes 16 ans, 2 années scolaires. Et puis, malgré le fait que je cherche entre Sion et Yverdon, et j'ai été convoquée quelques fois, mais on m'a toujours dit que j'étais trop jeune. C'était déjà un apprentissage qui était très prisé. Et puis, c'est vrai que comme je devais m'éloigner beaucoup de mon domicile, on m'a souvent dit que j'étais trop jeune et qu'il fallait que je trouve une autre solution. Du coup, j'ai une amie qui m'a informée qu'on pouvait faire l'école Minerva à Lausanne en voie privée. Et je me suis renseignée, ce qui m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir accéder à ce dont j'ai envie. Mais qui dit voie privée dit financement. Du coup, c'était compliqué, mais j'ai contracté un prêt bancaire. J'ai eu la chance d'avoir une bourse interne à l'école. Du coup, je me suis lancée dans ce projet. Donc, à l'époque, je crois que ça a un petit peu changé, mais à l'époque, on était 2 ans à l'école. Après une année en stage pratique, et puis on retournait à l'école pendant quelques mois avant de passer les examens CFC. Et que ce soit mon stage ou l'école, ça m'a vraiment permis de m'ancrer dans cette profession. J'ai jamais douté que j'avais fait le bon choix. Probablement que le fait que je me batte un peu pour y arriver, ça m'a vraiment encore plus attachée au fait d'être assistante médicale et à ce que ça représente pour moi.
En tout cas, enfin même, on peut le prendre aussi dans le sens inverse, c'est qu'on voit que vous étiez effectivement motivée vu que vous avez effectué toutes ces
Oui.
démarches pour réussir à apprendre le métier que vous souhaitiez apprendre.
Exactement. C'était très important et j'y suis arrivée.
Bravo, excellent. Du coup, on va parler maintenant de votre lettre ouverte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'écrire cette lettre, à qui elle s'adresse et ce que vous cherchez à obtenir en fait par le biais de cette lettre?
Alors, je crois que ma barque d'assistante médicale a commencé à se charger assez rapidement quand je suis rentrée dans la vie professionnelle, même si les premières années, on se pose moins de questions, on a envie de faire de l'expérience. Mais j'ai quand même été assez rapidement confrontée à des déconvenues. C'est pas facile d'évoluer dans ce monde-là. On est souvent en contact avec des médecins masculins. On vit quand même dans une société patriarcale. J'étais une jeune fille. Ça nécessite quand même un certain de prendre un peu comme sa position des fois, et c'est pas toujours facile quand on est jeune et quand on arrive dans le métier. Voilà, ça fait partie des choses qui ont déjà mis du poids dans ma barque. Ensuite, on a des conditions salariales, et de manière générale, pas forcément très avantageuses. Donc, je pense que ça a continué de charger le bateau. Et puis, la dernière année que j'ai vécue dans le cabinet dans lequel je travaille actuellement, j'ai été confrontée à travailler avec des collègues pas formées, pas compétentes. Et puis, un soir, je suis arrivée à la maison, j'arrivais plus à enlever cette boule d'angoisse que j'avais sur l'estomac. J'avais besoin de dire, de m'exprimer. Et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup l'écriture, c'est quelque chose que j'aime bien en général dans ma vie. J'avais envie de dire à mes collègues, vous n'êtes pas seule, parce que je sais que je suis pas la seule à traverser ce genre d'épreuve. J'avais envie de dire aux médecins, arrêtez, regardez ce qui est en train de se passer, vous allez nous perdre. Et puis j'avais envie de dire à beaucoup de médecins, et je me suis dit, ben, ma foi, fais cette lettre, et puis on voit là à la SVM, c'est peut-être là que tu vas toucher le plus de monde possible, à la rame pour mes collègues. Et puis après, j'ai pensé au groupe Facebook sur des assistantes médicales. Je me suis dit, là, je vais peut-être aussi avoir des retours de collègues en direct par des commentaires, etc. Et puis j'ai pensé aussi à des journaux médicaux qu'on reçoit au cabinet. Peut-être sur un malentendu, je pouvais être publiée ou contactée. Et puis ben, j'ai pensé à Med Pro aussi, ce qui nous amène à se parler aujourd'hui. Donc voilà, j'avais juste envie de diffuser le message au plus grand nombre. Et puis c'est comme ça que j'essaye d'y arriver un petit peu.
En tout cas, on sent qu'il y a de l'émotion quand même dans tout ça.
Oui, c'est encore très présent. Ça fait pas si longtemps. J'ai écrit la lettre le 30 mai. On est le 15 juillet. Je suis en train d'enregistrer un podcast avec vous. Enfin, c'est juste incroyable.
Ouais. Est-ce que vous avez eu d'autres retours suite à cet envoi?
Oui, alors vraiment, sans que je puisse m'y attendre, moi, je m'étais préparée à recevoir. Merci madame pour votre lettre, mais non, j'ai vraiment été prise en compte, j'ai été considérée, j'ai reçu des retours hyper rapides et très positifs, ce qui est hyper encourageant. J'ai discuté avec la présidente de la RAM, qui est en train de monter un projet suite à cette lettre avec son équipe, avec le comité de la RAM. La SVM a aussi très rapidement répondu. Ils ont publié ma lettre sur leur blog. Et puis, il y a peut-être des projets pour la rentrée. Voilà, on m'a parlé de certaines choses. Pour l'instant, c'est secret, mais voilà, qui pourraient peut-être être super intéressants en lien avec justement cette lettre. J'ai reçu pas mal de commentaires sur Facebook, de mails de mes collègues. J'ai créé une adresse email pour pouvoir dialoguer avec celles qui le voudraient. Et puis, les journaux m'ont tous répondu. Ils ont été très encourageants. Ils m'ont dit que ça faisait pas partie de leur ligne éditoriale, mais qu'ils m'encourageaient à continuer, puis qu'ils avaient apprécié ma lettre et la façon dont je l'avais écrite. Et puis, Med Pro, de nouveau, voilà, j'ai eu contact avec Monsieur Gruffat et puis ensuite avec vous pour le podcast. Et tout est positif. J'ai pas reçu une seule chose négative, vraiment. Tout le monde a pris en considération et m'a encouragée à continuer dans cette voie.
Génial. En tout cas, je suis ravie d'entendre ben, tous ces éléments positifs. C'est chouette.
Vraiment.
Et alors, je voulais juste préciser au cas où peut-être parmi les personnes qui nous écoutent, certains ou certaines ne connaîtraient pas les abréviations. Donc, l'ARAM, c'est l'Association romande des assistantes médicales, et SVM, c'est la Société vaudoise des médecins.
Exactement.
Voilà, juste pour que tout le monde comprenne. Dans votre lettre, vous évoquez, enfin, elle est effectivement très bien écrite et il y a beaucoup de chapitres entre guillemets différents. Un des premiers chapitres, si on peut dire, c'est que vous mentionnez toutes ces évolutions qu'il y a eu ces dernières années, voire décennies, dans le monde médical. Et puis, ben, l'impact positif ou négatif que ça peut avoir sur votre profession. Alors, je trouverais chouette que vous mentionniez ces éléments à voix haute pour nos auditrices et auditeurs, si vous le voulez bien.
Oui, bien sûr. Je vais essayer de résumer un petit peu ce que j'avais voulu dire. Bah, je pense que ça fait que 15 ans que je suis assistante médicale. J'ai l'impression que j'ai emmagasiné de l'expérience, mais ça fait pas si longtemps que ça à l'échelle de l'humanité quand même. Donc du coup, les points positifs, c'est en 15 ans, on a tellement évolué au niveau technique, les appareils de laboratoire, les sets de soins, les injections. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, on est passé de déjà très bien à vraiment le must du must. Et puis, bah, comme je l'écris dans ma lettre, avant, pour la radiologie, c'était vraiment une grande histoire. On devait installer notre patient, on devait mesurer la zone à radiographier, on devait faire les réglages manuels. Donc, on avait appris à régler les kilovolts, les MAS, ça parlera aux assistantes qui m'écouteront. Ensuite, on devait faire une grande prière pour espérer qu'on avait bien fait la radio. On devait aller dans la chambre noire et de nouveau prier pour que la développeuse fasse bien son travail. On devait ensuite afficher la radio au négatoscope. Enfin, ça, c'est toutes des choses qui sont complètement obsolètes. On devait appeler le médecin. On devait de nouveau espérer très fort que ça lui convienne. Donc voilà, on avait un temps donné pour ça. Maintenant, les choses vont beaucoup plus vite. Je crois qu'au niveau de la sécurité aussi, on a beaucoup évolué. La sécurité des appareils, mais aussi des retranscriptions. Avant, on devait tout écrire à la main, les résultats de laboratoire dans le cahier du labo, ensuite dans le dossier du patient. Probablement qu'on a réduit considérablement le nombre d'erreurs dans ce genre de cas. Et puis bah, maintenant, les programmes médicaux nous permettent d'avoir accès au dossier du patient tout le temps, facilement. On peut faire des plans de traitement, des ordonnances, sans avoir le médecin à côté de nous pour déchiffrer les dossiers. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus simple et probablement de plus sécuritaire aussi. La facturation, on n'en parle même pas. Avant, il fallait ressortir tous les dossiers de la semaine. Essayer de déchiffrer les hiéroglyphes du docteur et puis facturer en conséquence de ce qu'il avait noté. Fallait imprimer les centaines de factures, les mettre sous pli. Enfin, je veux dire, là, on a avancé de manière incroyable et très, très positive. Que je pourrais dire de négatif, c'est que on n'a plus le temps de rien. Tout va vite. Le médecin veut que ça aille vite. Le patient est impatient malgré le nom qu'on lui donne. Il n'y a plus le temps de rien en fait. Tout doit être fait dans la minute. On a beaucoup moins d'échanges avec les patients, avec nos employeurs, avec nos collègues. Tout est connecté à l'ordinateur, aux appareils. Enfin, voilà, je pense que de ce côté-là, il y a quand même des choses. On devrait se souvenir qu'avant, on communiquait probablement vraiment mieux au sein du cabinet. Et puis, comme les choses étaient plus lentes et moins évoluées techniquement, ben, chaque chose avait un temps donné. Pour faire une radio, on avait un temps qui était prévu pour la radio. Pour la facturation, on avait une demi-journée qui était prévue pour faire cette facturation. Maintenant, on fait tout dans la même journée, tout le temps, et ça ne s'arrête jamais. Donc, il y a beaucoup de positifs, mais il ne faut pas oublier qu'avant, on avait un peu plus de temps et que c'était très important.
D'ailleurs, voilà, vous parlez d'une demi-journée consacrée à la facturation. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais en lisant votre lettre, vous dites les jeudis après-midi n'ont plus la même saveur. Est-ce que c'était justement ces jeudis après-midi qui étaient consacrés à la facturation?
Exactement, souvent dans les cabinets médicaux dans lesquels j'ai travaillé, et je crois que c'était une généralité à ce moment-là, les médecins n'étaient pas là le jeudi, et souvent pas là plutôt le jeudi après-midi. Et du coup, comme on devait imprimer des centaines de factures, que ça prenait du coup beaucoup de temps depuis l'ordinateur, l'imprimante, etc., eh ben, on s'attelait à cette tâche-là à ce moment-là. Il fallait attendre que tout soit imprimé, ensuite il fallait les plier en trois, les mettre dans l'enveloppe, dans le bon sens, essayer de ne pas se couper le bout des doigts, parce que c'est très embêtant de mettre 250 factures dans des enveloppes. Il fallait ensuite les fermer et les tamponner avec le stempel du cabinet, les amener à la poste. Enfin, je veux dire, c'était vraiment une tâche pas particulièrement intéressante, mais on avait une demi-journée pour faire
Ouais,
ça.
c'est rigolo. Et du coup, alors ma question c'est, est-ce que c'est justement cette évolution-là de votre métier qui vous met en colère et qui est à l'origine de votre lettre?
Non, vraiment pas. C'est pas l'évolution qui me met en colère. Je pense qu'il faut savoir tirer profit des avantages qu'elle nous offre, qui sont vraiment beaucoup plus conséquents que les inconvénients. Par contre, les inconvénients, justement, de ce temps qu'on n'a plus, ben, prend beaucoup le dessus. De plus communiquer correctement, de plus avoir le temps de se parler. En fait, ça paraît un peu bête comme ça, mais c'est vraiment très important dans notre métier de pouvoir parler aux patients, de pouvoir parler à nos employeurs, de pouvoir parler à nos collègues. C'est vraiment quelque chose de primordial. Et je pense que dans ce sens-là, ben, c'est quelque chose qui m'embête. Mais non, l'évolution est vraiment plus que favorable dans notre travail.
Parce que, en gros, on comprend qu'il y a un manque de temps qui fait que vous avez moins le temps de parler peut-être à vos employeurs, aux patients, etc. Mais finalement, ce jour où vous êtes rentré chez vous et que vous avez écrit cette lettre, s'il y avait une surdose de quoi, finalement?
Bah justement, le bateau et ma barque est très très pleine et surchargée. Elle est probablement en train de couler. On manque de temps, on manque de communication, on manque de considération. Et puis le fait d'être associé à ces personnes pas compétentes qui en quelques mois ont réussi à renverser l'équilibre du cabinet dans lequel je travaille. Le fait que je sente que l'équipe qu'on a créée avec mes deux employeurs, bah on sent que tout le monde n'est pas OK avec ce qui se passe, mais qu'on n'a tous pas le choix en fait. Et de se sentir comme ça prise au piège, bah c'est vraiment désagréable. Et j'avais besoin de dire vraiment et que chacun puisse, enfin que les gens que ça intéresse puissent entendre qu'il y a un problème et que je crois qu'il me concerne pas que personnellement.
Parce que du coup, dans votre lettre, je vais juste reprendre les mots que vous écrivez. C'est, vous
Oui.
dites, l'irrespect, ce qui vous met en colère, c'est l'irrespect total de votre profession. Et dans ce que j'entends, c'est notamment le fait que vos collègues, que les dernières collègues qui ont été engagées dans le cabinet ne sont pas formées comme, en tant qu'assistante médicale comme vous. Parce que dans votre courrier, vous dites aussi que le poste que vous occupez actuellement, vous dites que c'est une place en or. Donc, pouvez-vous juste nous dire les conditions de travail dans lesquelles vous travaillez, enfin, dont vous bénéficiez aujourd'hui et qui vous permettent de dire que c'est une place en or?
Je dis que c'est une place en or parce que j'ai cherché pendant longtemps la place qui correspondait à mes critères. Au début, voilà, quand j'étais jeune, j'avais envie de travailler dans une grande équipe, de faire beaucoup de choses. Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Ça a pris du temps, mais je me suis rendu compte que je suis pas particulièrement faite pour travailler dans une grande équipe avec beaucoup de collègues, etc. Et puis là, je suis tombée sur un petit cabinet de médecine générale de ville avec deux doctoresses super. Et puis, je crois que l'essentiel, c'est qu'on arrive à communiquer. On a réussi à former une petite équipe avec ma collègue habituelle. On s'entend bien, on se fait confiance. On a la chance d'avoir un travail, oui, varié, bien sûr. On fait du laboratoire, on fait des soins, on fait des perfusions, on fait beaucoup trop de secrétariat, mais on doit le faire. Et puis, ça correspond à mes critères à moi. Et l'essentiel, c'est vraiment de nouveau cette communication de elles ont confiance en moi, j'ai confiance en elles, et puis on peut échanger si on a besoin d'échanger, et j'ai une certaine liberté dans mon travail. Alors j'ai un salaire normal au barème de la RAM, j'ai 5 semaines de vacances, donc de ce point de vue-là, ça pourrait évidemment être mieux, mais de se sentir à l'aise dans son travail, de se sentir libre et respectée, en fait, bah. Pour moi, c'est essentiel.
Génial. Et malgré ces conditions en or, vous dites que vous n'en pouvez plus, que vous ne voulez plus faire ce métier. Pourquoi?
Ben voilà, ça fait des années, comme j'ai déjà pu un peu le dire avant, qu'on est quand même confronté à une surcharge de travail
Important.
importante, que la fatigue. En fait, on vide notre réservoir d'énergie quand on va au cabinet, on donne tout. Et puis, c'est très difficile de le remplir. Et il est souvent vide. Il y a peu de reconnaissance des patients, de moins en moins. Suivant où on travaille, il y a peu de reconnaissance des employeurs. Moi, ce n'est pas mon cas, mais ça a été souvent le cas auparavant. Évidemment que nos conditions sociales et salariales ne sont pas incroyables, donc ce n'est pas très motivant à rester dans le métier. On peut aussi très peu imaginer des perspectives d'avenir. Il y a peu d'évolution. On est assistante médicale un peu à la même place pour toute la vie, à part si on part sur un brevet fédéral. Mais pour ce podcast, je me suis un petit peu renseignée. Et puis actuellement, le brevet, il coûte 9 475 francs. Donc, il faut déjà avoir un employeur qui accepte qu'on fasse le brevet, ensuite éventuellement qu'il nous aide financièrement. Et il y a des subventions fédérales qui sont possibles sous certaines conditions, mais il faut de toute façon avancer l'argent avant d'obtenir les subventions. Et avec subvention, le brevet coûte 4 737 francs.
Ça reste une somme
Je sais
importante.
pas. Voilà, je ne sais pas si c'est accessible à beaucoup de monde, mais en tous les cas, ça n'allait pas du tout pour moi. Et puis de nouveau, d'avoir été confrontée à des collègues peu ou pas formés, qui aient un espèce d'amalgame de nos compétences, de nos places de travail, moi je trouve ça fortement désagréable. J'ai beaucoup de peine à gérer ça. Bien sûr qu'il y a mon histoire personnelle là-dedans, mais je crois quand même que c'est un gros problème.
Alors, sur ce point, justement, vous mentionnez dans votre lettre que alors que le cabinet dans lequel vous travaillez cherchait une assistante médicale, les personnes qui ont postulé avaient des profils très variés et vous listez ces différents profils. Et en fait, il n'y avait aucune assistante médicale diplômée qui postulait pour ce poste, si j'ai bien compris. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez un peu commenter?
Oui. Bon, déjà, il faut que je situe un peu quand même les choses. C'est que on cherchait un remplacement, donc à durée déterminée, un petit pourcentage, donc ça attire déjà beaucoup moins de monde quand c'est à durée déterminée, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, le peu d'assistantes médicales CFC qui auraient été intéressées par le poste, elles reçoivent tellement d'autres offres, c'est tellement rapide que les petites places comme ça, c'est très difficile de trouver du personnel formé. Et puis, pour lister un peu les dossiers qu'on a reçus, on a reçu des secrétaires médicales, donc ça c'est super, hein, mais disons qu'il y en a souvent qui ne sont pas formés et qui n'ont pas de formation de secrétaire médicale. Elles étaient secrétaires de commune, secrétaires dans un garage, secrétaires comptables de leur mari. On a eu beaucoup d'ASSC, d'infirmières en reconversion professionnelle, mais au même titre que moi, je ne peux pas être infirmière. Elles ne peuvent pas être assistantes médicales, c'est pas du tout le même travail. Une hypnothérapeute, une assistante en pharmacie, une vendeuse passionnée par le monde médical. Donc voilà, ça prête un peu à sourire, mais ça prouve quand même qu'il y a vraiment un souci et puis qu'il faut qu'on se batte pour garder nos places.
Donc voilà, donc on voit que il y a une pénurie, on le sait, hein, une pénurie d'assistantes médicales et d'assistants médicaux. Bien sûr, les hommes sont aussi inclus, hein,
Oui, bien sûr.
Je parle principalement au féminin, mais voilà. Donc, il y a une pénurie d'assistantes médicales. Du coup, les cabinets vont avoir tendance à engager des personnes qui ne sont pas formées parce qu'ils ne trouvent pas la perle rare.
Oui.
En parallèle, les assistantes médicales, on l'avait vu, hein, par exemple, dans l'épisode, pendant l'entretien qu'on avait eu avec Madame Fauchère, la présidente de l'ARAM, mais on voit qu'il manque des places de formation aussi pour les assistantes, mais des places d'apprentissage. Et puis, on voit dans ce que vous dites qu'il y a effectivement les conditions de travail qui font que même les personnes très motivées et formées finissent par changer de voie
Oui.
professionnelle, par quitter la profession, parce qu'elles trouvent pas, enfin parce que c'est voilà trop ce que vous mentionnez, trop de travail, pas assez de reconnaissance, un salaire peut-être pas à la hauteur, enfin voilà. Donc, c'est intéressant ce que vous dites. En fait, c'est vraiment, ça illustre parfaitement tout ça, le fait que tous ces profils différents postulent. Je voulais juste, ben, vous l'avez un petit peu dit, mais dans votre lettre, vous dites, je trouve que c'est très juste, toutes les professions telles que secrétaire à SSC, infirmière, etc., ont leur place intégrante dans le monde médical. Tout le monde est
Oui.
important, mais chaque profession a des compétences différentes, des atouts à partager, des liens à tisser. C'est très joliment dit, je trouve.
Merci. Mais c'est vrai, surtout c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a vraiment une organisation à revoir dans les cabinets médicaux. On n'arrive pas à pallier comme ça en une lettre ouverte à la pénurie des assistantes médicales. Il y a un problème, je le sais. Je suis aussi consciente que mes employeurs, ils ne peuvent pas engager personne et laisser la place libre, que personne ne réponde au téléphone. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui essaye de le faire. Mais peut-être qu'il faut revoir alors l'organisation des cabinets médicaux, qu'il y ait une place pour une secrétaire, qu'il y a une place pour une assistante, que les travails ne, enfin, le travail soit fait, mais les compétences sont différentes. Et moi, je ne veux pas lancer une guerre contre les secrétaires. Ce n'est pas du tout ça. Elles ont leur place, mais elles ont leur place à elles. Et les assistantes ont leur place à elles. Et on doit aussi pouvoir protéger ce qu'on fait. On ne répond pas simplement au téléphone. On a appris à répondre à écouter ce qu'on nous dit, à pouvoir évaluer une situation médicale urgente. Enfin, je veux dire, il y a moins d'une semaine, j'ai eu un patient au téléphone et si je ne l'avais pas fait venir au cabinet, il aurait fait un infarctus et il serait probablement décédé. Et peut-être que, voilà, il faudrait revoir les choses pour que tout le monde ait une place, mais une bonne place et que le travail puisse être fait correctement.
Merci beaucoup Noémie, c'est hyper touchant de vous entendre parler de la vie du cabinet. Donc on l'a mentionné, le secteur médical souffre d'une pénurie d'assistantes médicales. Est-ce que vous auriez des propositions sur ce qu'il faudrait faire pour pallier cette pénurie?
J'ai un peu travaillé sur cette question avant d'enregistrer ce podcast aujourd'hui, et puis bah, j'ai pas la baguette magique, mais j'ai pensé quand même à quelques points. Et je me dis que informer les jeunes, promouvoir la formation, déjà, ce serait quelque chose de bien. Je crois qu'on ne sait pas très bien ce que fait une assistante médicale. Il y a quand même un espèce de flou là autour. Donc, je pense que on devrait, voilà, mieux informer les jeunes, permettre de faire des stages d'observation. Il y a peu de cabinets qui acceptent les jeunes en stage d'observation parce que oui, c'est embêtant d'avoir quelqu'un qui nous colle pendant 2 jours et puis de lui trouver une place et que ça soit aussi agréable pour ce jeune. Mais je pense que ça serait vraiment important. Évidemment, ouvrir plus de places d'apprentissage, que les entreprises formatrices, voilà, ouvrent leurs portes. Je pense aussi qu'il y a un problème, et j'en avais parlé un peu avec Madame Fauchère, la présidente de la RAM. Les apprentis ont tendance maintenant à faire cet apprentissage comme un tremplin pour aller vers un job en études secondaires, infirmière, ambulancière, physiothérapeute. Et puis, ben, peut-être que on devrait privilégier de donner les places d'apprentissage aux jeunes qui veulent rester dans le métier, qui sont motivés à être assistantes médicales parce que c'est ce qui leur conviendrait pour le futur. Je crois aussi qu'il y a une espèce de déséquilibre parce que les jeunes, elles veulent aller travailler dans des grands centres médicaux pour avoir de l'expérience, pour faire beaucoup de choses, des plâtres, des prises de sang, des radios, ce qui n'est pas forcément le cas dans les cabinets privés, de campagne, etc. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à faire de mieux, justement, définir la place des uns et des autres pour que les assistantes fassent un boulot d'assistante, les secrétaires un boulot de secrétaire, etc. Et puis, bah, c'est quand même un métier de femme. Donc, souvent, on va commencer à avoir une vie de famille, des enfants, demander des plus petits pourcentages. Donc, de nouveau, peut-être que réorganiser les choses dans les cabinets pourrait être intéressant. Évidemment, comme vous en avez aussi parlé avec Madame Fauchère, facturer notre temps et nos gestes médicaux pour que notre métier soit valorisé, pour qu'on puisse avoir des meilleurs salaires, des meilleures conditions sociales, et puis que les médecins n'hésitent pas à nous valoriser, mais nous valoriser, je sais pas, payez-nous une place de parc, payez-nous des formations continues, parce que ben c'est dur d'être assistante médicale, on n'a pas un grand salaire, et du coup peut-être que si on avait des avantages tels que ceux-ci, et ben ça encouragerait aussi les gens à rester dans le milieu, de rester longtemps, de rester motivés et de rester voilà, de nouveau positive pour l'avenir.
Excellent, j'espère que ces propositions seront écoutées. Je vais rebondir aussi sur l'un des aspects que vous avez mentionné et dont Madame Fauchère avait aussi un peu parlé, c'est l'histoire des places d'apprentissage. Et puis vous dites que les jeunes sont plus intéressés à aller dans des centres médicaux plus larges, pouvoir expérimenter différentes choses. Et ce qu'elle avait proposé, ce faire à Madame Fauchère, c'était peut-être que pour les plus petits cabinets, d'offrir une place d'apprentissage, enfin de se mettre à pour offrir une place d'apprentissage. Comme ça, peut-être que le jeune, il peut expérimenter certains gestes médicaux dans un des cabinets et puis d'autres gestes dans l'autre cabinet. Donc ça peut être une
C'est une super idée.
solution pour les cabinets de campagne, comme vous dites, à condition qu'ils ne soient pas trop éloignés les uns des autres, mais...
Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est une super idée. Ou aussi, imaginez que moi, j'avais des amies quand on était en stage à l'école. Elles n'avaient pas de radiologie sur leur lieu de stage. Eh ben, elles allaient faire de la radiologie dans le centre de radiologie de la ville. Et bien sûr que ça demande une organisation un peu différente, mais en soi, c'est même plutôt bénéfique d'avoir la chance de côtoyer un cabinet, un centre de radiologie, un centre de laboratoire. Donc, que les petits cabinets ne se gênent pas d'accueillir des apprentis. Au contraire, ça peut être hyper riche et puis déjà avoir encore plus d'expérience que dans les grands centres au final.
Ouais, excellent. Merci beaucoup, Noémie. C'est hyper touchant de vous entendre parler de la vie du cabinet. Dans votre lettre, vous listez également les tâches que vous avez à effectuer en une journée. Vous avez pris l'exemple de la journée du 30 mai dernier. C'est le jour où vous avez écrit cette lettre en rentrant à la maison le soir. C'est un jour où vous étiez seule. La seule assistante médicale au cabinet. Et c'est vraiment impressionnant de voir toutes les tâches que vous avez effectuées ce jour-là. Combien d'heures travaillez-vous par jour?
Non-stop, 24 sur 24. Il n'y a jamais de pause. Non, je travaille 8 heures. Je travaille 8 heures par jour. Évidemment, il y a des débordements sur les pauses de midi, sur la fin de journée, quelques heures sup par ici et par là. Surtout, voilà, dans les périodes d'hiver, c'est bien connu dans les cabinets médicaux. Effectivement, ma liste du 30 mai est bien fournie, mais surtout pas tellement dans la quantité, mais dans le nombre de tâches différentes que j'avais dû faire ce jour-là. Ce qui explique que je suis rentrée aussi très fatiguée et vidée enfin de toute mon énergie. Mais c'était quand même, je suis obligée de le dire, une journée assez normale pour une assistante médicale qui travaille dans un cabinet de médecine générale, même dans d'autres cabinets d'ailleurs, mais en l'occurrence pour moi, c'est la médecine générale. Mais cette liste-là, ce que j'aime bien, c'est qu'elle prouve l'importance de notre formation, du fait que on a appris à gérer 45 000 téléphones, 72 prises de sang, 312 mails. On a appris à gérer en même temps. On est formé pour ça. On est compétente pour ça. Je dis beaucoup ce mot, mais il est très important. Et puis voilà, ça montre que notre formation est obligatoire.
Et une chose que vous ne mentionnez pas dans cette liste et qui est primordiale, je pense, dans votre profession, c'est tout l'aspect humain, tout le contact avec les patients. C'est un peu, vous êtes un peu l'âme du cabinet médical. C'est vous qui accueillez les gens, qui répondez au téléphone, etc. Et donc tout ce lien social, finalement, il n'apparaît pas dans votre liste de tâches qui est quand même, qui sont des
C'est
tâches
vrai.
techniques.
C'est vrai, je n'ai pas parlé de tous les patients que j'ai accueillis, rassurés, qui m'ont posé des questions, à qui j'ai répondu. C'est vrai, je n'ai pas parlé de ce côté-là parce que j'ai été un peu factuelle comme ça et j'étais un petit peu énervée, j'avoue aussi, ce soir-là. J'avais besoin de beaucoup de décharger, mais ça fait clairement partie de notre métier et c'est effectivement probablement le plus important. Tout le reste doit être fait, doit tourner, mais le contact qu'on a avec les patients, le lien direct comme ça qu'on essaye de former, un peu de fusionner pour bien les accueillir, pour bien les aiguiller, les rassurer, les soigner, c'est l'essentiel de notre job, c'est vrai.
Alors, pour clore votre lettre, en fait, vous expliquez que vous adorez, ou plutôt adoriez, votre travail, mais qu'au vu de la situation, vous priez pour avoir les ressources financières et temporelles pour en changer. Donc, bon, ça souligne ce qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises dans cet entretien, c'est que les conditions de travail actuelles des assistantes médicales sont un facteur important de la pénurie qui règne dans le secteur. Et parce qu'elle pousse, elle pousse ces dernières à changer de métier, ce qui est vraiment très triste au vu de l'importance de votre métier, justement, comme on vient de le mentionner. Et donc, vous dites souhaiter tirer la sonnette d'alarme par le biais de votre lettre pour qu'on prenne les choses en main pour vos collègues qui ne sont pas encore dégoûtés par leur métier. Donc, en fait, vous entendez que pour vous, entre guillemets, c'est déjà trop tard. J'espère que non, mais effectivement, qu'il faut faire quelque chose. Et donc, j'aimerais vous proposer de lire le dernier paragraphe de votre lettre à voix haute, hein, qui servira un peu de conclusion, qui est la conclusion de votre lettre et puis qui pourra aussi être la conclusion de cet entretien.
Oui, donc j'ai écrit écoutez, protégez vos assistantes médicales. Ne nivelez pas notre formation par le bas. Respectez notre formation, nos capacités, notre engagement dans vos cabinets. Soyez reconnaissants, ouverts, généreux. Privilégiez la qualité à la quantité. Oui, c'est facile à dire derrière mon ordinateur, mais le train n'est pas loin d'atteindre la fin du tunnel et ça ne sera pas une vue mère si vous ne déviez pas rapidement la trajectoire.
Il y a quelque
Petits points. J'avais mis trois petits points.
Oui, un petit point. Mais c'est très parlant, c'est très parlant. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose encore à cette dernière phrase?
Oui, alors je crois qu'on l'a dit en discutant ensemble un peu plus avant, mais j'aimerais juste préciser que je parle au féminin parce que je parle au féminin pour moi, mais que je pense aussi à mes collègues masculins qui sont tout aussi concernés par le problème. Et puis j'aimerais souligner vraiment trois fois en rouge, stabilo rouge, que ma colère, elle est positive, qu'on utilise beaucoup de mots négatifs, que ce soit dans ma lettre ou dans l'échange qu'on vient d'avoir. On dit colère, on dit ras-le-bol, on dit fatigue, on dit surcharge. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment qu'on tire de tout ça, de ce courrier que j'ai fait, de notre échange aujourd'hui, c'est que il faut aller vers le positif et j'ai envie de parler haut et fort et de dire ces mots. À connotation négative, mais en fait, c'est hyper positif. Il faut qu'on soit ensemble. Ensemble, on ira plus loin, on ira plus haut, on ira plus fort. Peut-être qu'on peut imaginer atteindre, voilà, les gens qui dirigent le gouvernement. On peut espérer que la SVM, oui, elle allume ma lettre, mais on peut espérer que un jour, ils enclenchent le bouton on pour que le changement commence à se faire, parce que sûrement que c'est pas facile de leur côté, mais il va falloir commencer à faire quelque chose de factuel, de concret. Il faut que nos employeurs nous écoutent, et c'est pas parce qu'on dit les choses, c'est pas parce qu'on se positionne et qu'on prend des décisions qui vont à l'encontre de ce que aimerait qu'on ait des mauvaises assistantes médicales. On a le droit de dire les choses, on a le droit de les dire souvent, on a le droit de dire non, on a le droit de dire ça me convient pas, ça fait pas de nous des mauvaises employées, ça fait de nous des assistantes qui ont envie de se positionner et de sauver leur profession. Donc oui, probablement que pour moi c'est un peu trop tard. En tous les cas, pour l'instant, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin d'imaginer peut-être autre chose, mais je suis sûre qu'il n'est pas trop tard et qu'on peut vraiment voir du positif.
Merci beaucoup, Noémie, pour ces paroles. Elles sont très touchantes et puis j'espère qu'elles seront largement écoutées. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre le micro, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'exprimer ainsi à haute voix votre colère positive.
C'est ça, exactement.
Nous vous souhaitons une très bonne continuation. J'espère que cette lettre ouverte aura l'écho et l'effet espéré. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient lire la lettre de Noémie, vous la trouvez justement comme elle l'a mentionné sur le blog de la Société vaudoise des médecins, donc svmed.ch. Si vous êtes en recherche d'emploi dans le secteur médical, pensez à publier votre CV sur le site medpro.ch. C'est rapide et gratuit et cela vous rend plus visible et facilite vos démarches auprès des employeurs. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast de MedPro au cœur des cabinets médicaux. Au revoir, Noémie.
Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir reçu et d'avoir échangé avec moi.
Avec grand plaisir.